Papa Céleste, nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin, devant ta parole. Ta parole, comme on va voir, qui est venue habiter parmi nous. Et ce matin, Seigneur, dans ce prologue de l'Évangile de Jean, puisses-tu nous mettre en confiance sur la divinité de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'on puisse ensemble sortir d'ici cette semaine avec cette joie, ce réconfort, Seigneur, de savoir que notre Dieu est grand, que notre Dieu est tout-puissant, que notre Dieu est éternel. Viens dans la vie de ceux et celles qui ne te connaissent pas. N'éteins pas, Seigneur, le lumignon qui fume encore. Donc, Seigneur, fais silence en nos cœurs. Permets que nos esprits n'aillent pas à ici et là, Seigneur Dieu, mais qu'on puisse rester concentré sur ce que tu veux nous dire ce matin. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, si vous voulez bien tourner dans l'Évangile de Jean, et ce matin, on va aller dans les 5 premiers versets de l'Évangile de Jean, dans Jean 1. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire du chapitre 1, c'est-à-dire verset 1 à verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean va commencer son évangile ici en parlant de la parole. Mais ce qu'il fait ici, c'est qu'il n'explique pas tout de suite son identité. Autrement dit, il ne se nomme pas. Il ne dit pas qui il est. Une parole, ou la parole, c'est une unité de langage. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, hein, on fait des phrases, et puis on parle dans une certaine langue, et puis les phrases sont composées de mots, et ces mots-là font que on a une parole, on parle, on dit quelque chose. Et cette parole-là, c'est évidemment celle par laquelle on communique. Hein? Imaginez-vous qu'on n'ait pas ce petit jouet-là entre la langue. Si on ne pourrait pas parler, comment pourrions-nous communiquer entre nous? Et on sait aujourd'hui que la communication, c'est quelque chose d'important. Cependant, ce que Jean ne parle pas ici, c'est de langage. Il ne parle pas de langage, pas en tout, mais il parle d'une personne, la parole. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu a parlé pleinement, abondamment à l'humanité. Dieu a parlé à l'homme en la personne du Seigneur Jésus. C'est notre thème ce matin. Hein? Dieu n'a pas parlé par des messages, des textos. Dieu n'a pas parlé par un email. Dieu a parlé directement à l'homme par la personne du Seigneur Jésus. Et en venant dans le monde, dans ce monde, Christ nous a parfaitement révéler le caractère de Dieu. Ben, Jésus dit lui-même, personne n'a vu Dieu, sinon le Fils de Dieu, qui est venu pour le faire connaître. Faire connaître son caractère, faire connaître qui est Dieu. Dans les cours de théologie, je crois personnellement que le cours le plus important, c'est lorsqu'on arrive en doctrine et qu'on étudie Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Apprendre à les connaître. Et en mourant sur la croix, il, Jésus, nous a déclaré comment Dieu nous aimait. Et j'écoutais un message hier, avant de m'endormir, un pasteur que j'aime beaucoup. Un pasteur qui brasse des cages. Puis là, parce que je veux le nommer, je ne suis pas capable. En tout cas, pour que Dieu nous aime, il faut qu'il haïsse. Pour que Dieu nous aime, il faut qu'il haïsse. Haïsse quoi?
Le
péché. Paul Washer. En venant dans le monde, Christ nous a parfaitement révélé son caractère et en mourant sur la croix, il nous a déclaré combien Dieu nous aime. Ainsi, Christ est la parole vivante. La parole vivante adressée par Dieu à l'homme. La parole vivante, Jésus-Christ, est l'expression de la pensée de Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un dans l'air, comme on entend dire, le bonhomme en haut, bonhomme, la mère nature, ou bonhomme. Non. Et comment fait-on pour connaître Dieu si ce n'est qu'à travers Jésus-Christ? Donc, on va aller verset par verset parce que c'est la façon dont j'aime enseigner, c'est-à-dire verset par verset. Et on va aller jusqu'au verset 5. Donc, la parole, premier point, c'est la parole dans l'éternité et le temps. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Christ n'a jamais eu de commencement. Mais il existe de toute éternité. Aussi loin que l'esprit de l'homme peut remonter, essayez de vous imaginer le plus loin possible l'existence de quelque chose. Là, il y en a qui vont dire, mais moi je me rappelle des choses quand j'avais 3 ans. C'est jeune. Le Seigneur Jésus était présent aussi loin que l'homme peut remonter et même au-delà. Jésus n'a jamais été créé. Il n'a jamais connu de commencement. Cette doctrine-là de l'éternité de Jésus-Christ est vraiment contestée. Autrement dit, ce Jésus-là serait né à Bethléem. Il aurait grandi dans la perfection de Dieu. Et ce n'est qu'après sa résurrection qu'il est devenu Dieu. Et c'est ce que certains croient. Mais ce n'est pas ça. Dans l'évangile de Jean, celle que nous allons voir, qui souligne que Jésus est le Fils de Dieu, toute généalogie serait déplacée. Je ne parle pas de la généalogie de Jésus en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il n'y en a pas. Cette parole-là, Jésus lui-même, elle était avec Dieu. De toute éternité, la parole était avec Dieu. Jésus-Christ possédait une personnalité distincte. On dit qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Jésus n'était pas seulement une idée, pas seulement une pensée, pas seulement une sorte d'exemple. Jésus, c'était une personne réelle qui vivait avec Dieu le Père. Et enfin, Jean dit, la parole était Dieu. Non seulement Christ demeurait avec Dieu, mais il était lui-même Dieu. Et ça aussi, c'est une doctrine, comme je vous le dis souvent, qui est de plus en plus attaquée. La Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu. Et en ce Dieu unique, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez me dire, on le sait. Peut-être qu'on ne sait pas assez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se vanter de dire ce matin qu'il connaît très bien le Père, très bien le Fils, très bien le Saint-Esprit? Chacune de ces trois personnes-là est Dieu. Et deux des personnes de la Trinité, c'est-à-dire deux des personnes de la Trinité, sont mentionnées dans ce verset-là, soit Dieu le Père et Dieu le Fils. Et on a ici la première affirmation parmi beaucoup d'autres qu'on va trouver dans cet évangile-là, qui nous confirme que Jésus-Christ est Dieu. Il y a plusieurs religions autour de nous qui nous enseignent le contraire. Les musulmans pensent que Jésus est un prophète. Les mormons, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus était Dieu. Pourtant, Jean nous dit ici que cette parole-là était Dieu. Pas un petit Dieu avec un D minuscule, mais un grand Dieu. Il n'est pas suffisant, frères et sœurs, de dire qu'il est un Dieu, ou qu'il ressemble à Dieu, ou qu'il est divin. Non, la Bible enseigne que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, Jean poursuit au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Pourquoi qu'il y a une répétition aussi? Elle était au commencement avec Dieu. Il vient le dire, là. La parole était avec Dieu. Donc, ce verset 2-là peut nous sembler comme étant une répétition de ce qui vient d'être dit au verset 1, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce verset-là nous enseigne, frères et sœurs, que la personnalité et la divinité de Christ furent sans commencement, éternels. Jésus n'est pas devenu une personne pour la première fois lors de sa venue comme bébé à Bethléem. Et il n'est pas devenu non plus un Dieu après sa résurrection, comme certains l'enseignent. Je me répète ici, mais c'est ça. Non, Jésus est Dieu de toute éternité. Et ça, c'est important à comprendre. Il était au commencement avec Dieu. On arrive au verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Toutes choses ont été faites par elle. Christ n'a pas été créé. Hein? Christ n'a pas été créé. Bien au contraire, il est le créateur de toutes choses. On est fier de dire qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, et j'ai fait ci, j'ai pas tenté ci, Hey, wow! T'as rien fait si Dieu le veut pas. Christ est le créateur de toutes choses. Et ceci inclut le créateur de l'homme, des animaux, des corps célestes, des anges, de toutes les choses visibles et invisibles. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Créer, c'est créer à partir de rien. Puis fiez-vous pas aux magiciens là, qui vont apparaître des colombes devant vous. Et ce que je viens de dire là, ce que la parole dit, n'endure aucune exception. Si une chose existe aujourd'hui, Christ l'a créée. Et en tant que créateur, Jésus est de toute évidence supérieur à toute sa création. Et vous savez ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, hein? En réalité, Satan a voulu que l'homme devienne supérieur, qu'il en connaisse plus que Dieu. On ne peut pas être au-dessus de celui qui nous a créés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, c'est que les trois personnes de la Trinité ont été impliqués dans l'œuvre de la création. Et on voit dans Genèse 1:1, hein, Dieu créa les cieux et la terre. C'est clair. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement-là, c'est pas encore le commencement, c'est le commencement de la création. Mais avant ça, Dieu existait. Au verset 2, on lit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Saint-Esprit. Et dans Colossiens 1, verset 16, la deuxième partie du verset, on peut lire « Tout a été créé par lui. » C'est qui, lui?
Le Christ.
Jésus. « Et tout a été créé pour lui. » Pour sa gloire. Hein, j'écoutais les chants le matin, puis je me disais, c'est ça, le premier chant surtout qu'on a chanté, la gloire de Dieu. Je reviens encore à ce que j'ai écouté hier, puis je vais vous dire, ça me brosse à la cage. Paul Washer, c'est le genre de gars que, aussi certain que tu peux l'être, après que tu l'as écouté, tu te poses des questions. Donc, pourquoi qu'on est ici ce matin?
Pour lui.
Pardon?
Pour lui.
Il Là, il va vous dire, Paul Washer, on est ici un matin à cause de lui. Ça fait toute la différence. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux ce que vous dites là. Parce qu'on pense de même. Mais tout ce qu'on fait là, c'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de personne. C'est à cause de lui. Et c'est à cause. Hein? C'est à cause. C'est à cause de lui. Si on est ici un matin, c'est encore à cause de lui. C'est pas parce que je l'ai aimé le premier. Non, je l'ai aimé. C'est pas parce que j'ai trouvé du bon monde avec qui me tenir, puis c'est fantastique. Non. Si je dis ce matin, c'est à cause de lui. Toutes choses ont été faites par elle. Mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Cette parole-là, elle est, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jean va nous dire ici que la parole était la vie. Ça ne veut pas dire que... Ça ne signifie pas seulement que Jésus possédait la vie, mais qu'il était et qu'il demeure la source de la vie. Si tu cherches la vie éternelle, cherche-la pas en aucun autre que dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, le mot inclut à la fois la vie physique et la vie spirituelle. Et lors de notre naissance, bien, on a reçu la vie physique. Lors de notre nouvelle naissance, on a reçu la vie spirituelle. Puis les deux viennent de lui. Ensuite, Jean dit, la vie était la lumière des hommes. Celui qui a donné la vie, bien, il est aussi la lumière des hommes. Hein? Donc, une lumière, ça éclaire, c'est pour nous faire voir clair. Donc, Jésus donne à l'homme la bonne direction, la direction nécessaire pour vivre. Et tout cela se retrouve dans la sainte parole de Dieu. Vous savez, c'est une chose d'exister. C'est une autre chose de savoir comment vivre. De connaître le but véritable de notre vie. Puis aussi le moyen d'aller au ciel. Mais celui qui donna la vie nous donne également la lumière sur notre chemin, la réponse à toutes nos questions qu'on a besoin de savoir. Si tu n'as pas de réponse, c'est parce que tu n'as pas besoin de savoir tout de suite. Et le premier chapitre de l'Évangile de Jean nous fournit 7 titres merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va les regarder. Un à un. La parole, au verset 1 et verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est le verset 14. Mais au commencement, était la parole. Ça, c'est le verset 1. Ensuite, au verset 5 et au verset 7, on décrit Christ comme étant la lumière. Hein, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et Jean 1, 7, il vint pour servir de témoin, on parle de Jean-Baptiste ici, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Verset 29 et verset 36, toujours dans le chapitre 1, on décrit Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Hein, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il lui dit, et il dit, c'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a vu Jésus venir à lui. Et ensuite, au verset 36, eh bien, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Fils de Dieu maintenant, au verset 34 et 49. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Verset 49, c'est notre beau Nathanaël ici qui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Ensuite, le Christ, on appelle Jésus le Christ, le Messie. Verset 41, « Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » On l'appelle le roi d'Israël, verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et enfin, verset 51, on l'appelle « Fils de l'homme ». Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Les quatre premiers titres, hein, on parle de la parole, la lumière, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, mais les quatre premiers titres ont deux références. Et on pourrait interpréter ça comme étant quels sont, c'est-à-dire ces versets-là, une application universelle pour le monde entier. Et les trois derniers titres ont ce qu'on appelle cette signification-là ou cette application-là que je devrais dire sont employés une seule fois et concernent d'abord Israël et ensuite le peuple de Dieu terrestre. Donc, on a les quatre premiers titres qui nous parle d'une application universelle, et les trois derniers titres qui nous parlent de, un parle d'Israël, et l'autre, les deux autres parlent de ce qu'on appelle le peuple de Dieu terrestre. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et enfin, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Vous savez, l'entrée du péché dans le monde là, a fait plonger l'esprit des hommes dans les ténèbres. L'esprit des hommes a plongé, c'est-à-dire le péché a fait plonger le monde dans les ténèbres. Et désormais, les hommes en général ne connaîtraient pas Dieu et ne désireraient pas le connaître. Ça, c'est un statement pas mal rough à comprendre. Il n'y a personne ici qui cherchait Dieu. Ce que Paul dit dans Romains. Personne ne veut le connaître Dieu. Mais Seigneur Jésus est venu au sein de ces ténèbres-là comme étant une lumière qui brille dans un lieu obscur. Hein, quand on est pogné à noirceur, là. C'est-tu le fun quand on trouve une flashlight, une allumette? Je veux voir. Sans Jésus, c'est impossible que vous et moi, on soit ici aujourd'hui. Et là, Jean nous dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Et cette affirmation-là peut signifier que les ténèbres n'ont pas compris le Seigneur Jésus lors de sa venue dans le monde. Les hommes n'ont point saisi l'identité ni le but de la venue de Jésus. On pourrait même traduire cette phrase-là que les ténèbres ne l'ont pas dominé. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Les ténèbres ne l'ont pas dominé. Autrement dit, son rejet par l'homme, le fait que l'homme a rejeté Jésus et l'inimitié de l'homme n'empêchèrent pas la véritable lumière de briller. Donc, les ténèbres n'ont pas dominé la lumière. Et je conclue en disant ceci. Qu'est-ce qu'on doit retenir ce matin de l'enseignement de Jean dans ces 5 chapitres? Chose certaine, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Pas un petit Dieu, mais un grand Dieu. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, il faut faire attention de la façon dont on perçoit Dieu. Jésus est éternel. Pas de commencement, pas de fin. Jésus, c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce qu'on voit, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, a été fait par lui. Jésus, c'est la vie éternelle. Si on ne place pas en lui sa foi, on mérite un châtiment éternel. Et enfin, Jésus, c'est la lumière du monde. Celui qui est venu apporter un espoir vivant. Mais ce qui est triste, c'est que le monde ne l'a point reçu. Alors, retenons ces choses-là ce matin. Revisitons-les dans notre lecture. Je vous encourage à lire l'Évangile de Jean. Là, comme c'est là, on est dans le chapitre 1. Lisez le chapitre 1 plusieurs fois. Demandez à Dieu, demandons à Dieu de nous éclairer. Ce matin, ce n'est pas une prédication exhaustive. J'aurais pu aller plus profondément dans plusieurs points. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre le nécessaire. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir comme Jean nous l'a dit. Il a écrit ces choses afin que nous croyions. Seigneur, mon Dieu, quelle joie ce matin de voir que ta parole, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est venue sur cette terre. Et malgré le fait que plusieurs ne l'ont pas reçu, Seigneur, tu as permis que nous puissions être ravivés par ton Fils Jésus, par l'Esprit Saint qui nous a délivrés de la mort éternelle. Tu nous as aimés, tu nous as choisis avant la fondation du monde. Et Seigneur, on n'a absolument rien à se glorifier ici-bas pour le choix qu'on a fait, pour la façon dont on vit. Tout est à cause de toi. Alors viens, Seigneur, raviver nos cœurs, bâtis, construis, continue à nous édifier, Seigneur Dieu, dans ta parole, à bâtir cet amour fraternel entre nous. et qu'on puisse, Seigneur, se retrouver un jour avec toi pour l'éternité. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen.